Chapitre 27. Je saute de mon tabouret, même si je n'ai pas de plan. On ne panique pas. Tu réfléchis avant d'agir cette fois, d'accord? La BVBA est toujours chaude. Il y a donc encore des astrophages vivants là-dedans. Le processus n'est pas terminé. Je suis arrivé tôt et c'est une bonne chose. Non pas pour la BVBA. Pour elle, c'est trop tard. Il me serait impossible de séparer les astrophages des taumibes. Cela signifie cependant que la catastrophe est récente et que les taumibes, j'ignore comment elles ont trouvé le chemin du fût, n'ont sans doute pas atteint mes réservoirs de carburant. Oui, il s'agit de ma priorité absolue, surtout ne pas permettre aux taumibes de trouver mon carburant. La dernière fois, cela s'est produit à cause des fissures dues au stress subi par le vaisseau. Mais les taumibes étaient sans doute passés d'abord par le compartiment habitable, où je les avais laissés entrer. Il n'y a pas beaucoup de chevauchement entre le circuit d'alimentation des moteurs et l'habitacle du vaisseau. Je ne vois qu'un coupable possible. Le système de support vie. Lorsque le vaisseau est trop froid, le système fait passer de l'air sur des bobines emplies d'astrophages pour le réchauffer. Une brèche dans une de ces bobines peut avoir causé la catastrophe. Heureusement pour moi, un paquet d'astrophages à 96 degrés a maintenu une température élevée dans le vaisseau, au point de nécessiter l'usage de la climatisation. Ça y est, j'ai mon plan. Je grimpe dans la salle de contrôle, où j'affiche l'écran du support vie afin d'en compulser l'historique. Comme je m'en doutais, le chauffage n'a pas tourné depuis plus d'un mois. Je le désactive complètement, mais je n'ai pas confiance dans l'affichage. Je me précipite vers la boîte à fusibles principale. Je trouve celui du chauffage et la baisse. Bien. Je retourne dans le siège du pilote et j'affiche l'écran du carburant. Les réservoirs semblent tous en bon état, la température est correcte, les taumibes ne mettraient pas longtemps à faire un véritable massacre dans un réservoir d'astrophage. Si mes réservoirs étaient infestés, il serait plus froid, j'en suis sûr. J'ouvre ensuite l'écran des moteurs tournants que j'éteins. Le sol se dérobe sous mes pieds comme je me retrouve en apesanteur. Désactiver les moteurs n'est sans doute pas nécessaire, mais je préfère n'utiliser aucun carburant pour le moment. En effet, s'il y a des taumibes dans le circuit, je veux qu'elles restent à leur place, au lieu de les voir circuler aux quatre coins du vaisseau. Bien, répétai-je. Bien, bien. Je réfléchis encore. D'où viennent ces taumibes ? Avant d'importer les astrophages de Rocky, j'ai stérilisé la totalité du Dernière Chance avec de l'azote. En théorie, les seules taumibes présentes dans le vaisseau devraient être celles des mini-fermes destinées aux scarabées et celles des cuves scellées en xénonite. Pas le temps de me poser des questions scientifiques. Je spéculerai plus tard. Pour le moment, j'ai un problème d'ingénierie à résoudre. Si seulement Rocky était toujours avec moi. Tout serait tellement plus facile. L'azote. J'ignore comment les taumibes sont entrées. Tout ce que je sais, c'est qu'elles doivent mourir. Les taumibes 82,5 peuvent supporter 8,25% d'azote à 0,02 ATM. Peut-être un peu plus. En tout cas, certainement pas 100% à 0,33 ATM, la pression régnant dans l'habitacle du vaisseau. Cela représente 200 fois la dose mortelle d'azote. Je flotte jusqu'à la boîte des fusibles, où je coupe tout ce qui concerne le support vie. Immédiatement, une alarme se met à hurler et des lumières rouges s'allument. Je me propulse de l'autre côté de la salle de contrôle, jusqu'à la boîte à fusibles du système d'urgence. J'éteins tout. L'alarme générale est vraiment assourdissante, aussi la fais-je taire sur le panneau d'interface principale. Je descends à la hâte dans le laboratoire, où j'ouvre le placard contenant mes bouteilles de gaz. Je dispose d'une bouteille de 10 litres d'azote. Une fois de plus, je devrais ma survie à la méthode de suicide choisie par Dubois. Je ne me rappelle pas tous les détails du fonctionnement du support vie, mais je sais qu'il possède des soupapes de surpression manuelle. Le vaisseau n'acceptera pas une pression d'azote supérieure à 0,33 ATM. Si tout le reste échoue, ce qui arrivera puisque j'ai désactivé les systèmes d'urgence, le navire expulsera l'excès de gaz. Je ne peux pas simplement libérer tout cet azote et croiser les doigts. Je dois d'abord me débarrasser de l'oxygène. De tout l'oxygène. L'heure n'est plus à la tergiversation. Je veux 100% d'azote dans le vaisseau. Je veux que le vaisseau tout entier devienne atrocement toxique pour les taumibes. Et même si les prédateurs se cachent sous une couche de crasse quelconque, je veux que l'azote les atteigne. Je veux de l'azote partout. Partout. J'attrape la bouteille de gaz, prends appui sur le sol et me propulse vers la salle de contrôle. J'ouvre la porte intérieure du sas et entre dans la combinaison Orlan plus vite que jamais. Je démarre tous les systèmes sans prendre la peine de faire des vérifications. Pas le temps. Laissant la porte intérieure ouverte, j'ouvre la soupape d'urgence de la porte extérieure. L'atmosphère du vaisseau est évacuée en sifflant dans l'espace. Les systèmes de support vie primaire et secondaire s'éteignent. Ils sont incapables de remplacer les gaz évacués. Maintenant, attendre. Il faut plus de temps qu'on ne le croit pour vider un vaisseau de son atmosphère. Dans les films, tout le monde meurt à la moindre brèche. Ou alors le type musclé de l'équipage bouche le trou avec son biceps ou un truc comme cela. Dans la vraie vie, cependant, l'air ne se déplace pas si vite. La soupape d'urgence du SAS a 4 cm de diamètre. Cela paraît beaucoup, n'est-ce pas? Au bout de 20 minutes, la pression de l'atmosphère du vaisseau est tombée à 10% de sa valeur initiale. Et elle continue de baisser très lentement. Je pense qu'il s'agit d'une fonction logarithmique. En dépit de l'urgence de ma situation, je reste donc immobile, ma bouteille à la main. Bon, 10%, ça me semble pas mal. Je referme la soupape d'urgence pour sceller le vaisseau, puis j'ouvre la bouteille d'azote dont le sifflement remplace celui de l'air s'échappant dans l'espace. La différence entre les deux n'est pas flagrante. Encore une fois, j'attends. Moins longtemps toutefois. Probablement parce que la pression dans la bouteille était bien supérieure à celle de l'atmosphère de l'habitacle du vaisseau. Peu importe. En tout cas, le vaisseau ne va pas tarder à recouvrer une pression de 0,33 ATM, presque entièrement constituée d'azote. Détail amusant, même si je retirais ma combinaison, je ne risquerais pas grand-chose. Je respirerais sans aucune difficulté. Avant de mourir par manque d'oxygène. Je veux que l'azote s'immisce partout. Je veux qu'il pénètre le moindre interstice. Je veux que les taumibes crèvent, ou qu'elles se cachent. Foncez, mes mignons N2, et causez un maximum de destruction. Je redescends dans le laboratoire pour jeter un coup d'œil à ma BVBA. Étant remonté précipitamment, j'ai oublié de sceller la cuve. Heureusement, les astrophages constituent une matière épaisse et collante. La surface de tension et l'inertie ont tout maintenu à l'intérieur. Je referme le couvercle, je remonte le fût dans le sas et je balance tout dans l'espace. J'aurais peut-être pu sauver quelques astrophages en envoyant de l'azote sous pression dans la bouillie afin de tuer les prédateurs qui s'y terrent, mais pourquoi prendre le risque? Je dispose de plus de 2 millions de kilogrammes d'astrophages. Pas question de compromettre la mission en essayant de récupérer quelques centaines de kilos. J'attends 3 heures avant de remonter tous les fusibles. Après une période de panique initiale, le système de support vie reconstitue une atmosphère normale de 0,4 ATM grâce à ses copieuses réserves d'oxygène. Je dois isoler toutes les sources de taumibes du vaisseau, de préférence avant que le support vie ait fini de purger tout l'azote. Pourquoi ne pas le faire avant de recouvrer un air normal? Parce que ce sera bien plus facile et rapide sans porter une combinaison d'AEV. Car j'aurai besoin de mes mains, vous comprenez? Je sors de la combinaison Orlan et je plane jusqu'au labo, la bouteille d'azote à la main. Tout d'abord, mes fermes. Je mets les 10 cuves dans des caisses en plastique, sur le couvercle desquelles je colle une valve. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec de l'époxy, afin d'y injecter de l'azote. S'il y a des fuites dans les cuves, le gaz y entrera et fera un massacre. Les fermes en parfait état sortiront indemnes de l'opération. Les caisses sont normalement étanches, mais je les scelle avec de l'adhésif avant de les surpressuriser volontairement. Les flancs et les couvercles gonflent un peu. Une caisse contenant une ferme affligée d'une fuite se dégonflerait à vue d'œil. Ensuite, les scarabées et les mini-fermes. John et Paul sont déjà équipés de leurs mini-fermes. Je les mets à l'isolement dans des caisses exactement comme les cuves. Je travaillais sur Ringo lorsque la situation a merdé. Aussi, la mini-ferme qui lui est destinée, ainsi que celle de George, ne sont-elles pas encore installées? Je mets ces deux compères dans une autre caisse. Et je fixe le tout au mur avec du ruban adhésif. Pas question que les caisses flottent librement. Elles risqueraient de heurter un objet pointu ou coupant. Un bazar sans nom règne dans le laboratoire. Ringo était démonté à moitié lorsque j'ai dû désactiver les moteurs. Des outils, des pièces détachées et un tas de choses flottent un peu partout. Je vais devoir nettoyer tout cela sans l'aide de l'apesanteur avant de pouvoir me reposer. Fais chier.